Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une version homme, avec un homme, justement, qui accepte de répondre à toutes les questions, sans langue de bois, quitte à le surprendre parfois. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, version homme.
Hamza Chaoui, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ma version homme de femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Hamza?
Ben ça va super bien, avec plaisir.
Alors, Hamza Chaoui, vous êtes ce qu'on appelle un fin stratège. Vous êtes un planeur stratégique. Ça, c'est dans la vie pro. Maintenant, quand on a travaillé pendant très longtemps dans ce domaine, est-ce qu'on devient un stratège, un planeur et un planificateur, même dans sa vie?
Ah, alors, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là ou si c'est plutôt l'inverse.
Ouais, ouais.
Peut-être que c'est parce que j'ai toujours eu un penchant pour la planification. Je me projette beaucoup en avant. Et donc oui, peut-être il y a aussi le fait que je suis peut-être un peu trop ou j'ai toujours été très observateur du monde qui m'entourait, très curieux des comportements humains, etc. Et je pense que ces biais assemblés ont en effet dicté un peu mes choix de carrière, mon évolution dans ce métier.
Alors, ce qu'on me dit souvent, c'est quand on se projette beaucoup, quand on planifie beaucoup, etc., c'est aussi une forme d'anxiété. C'est pour maîtriser une forme d'anxiété face à l'inconnu, face à l'imprévu, essayer de dompter en fait l'avenir. Est-ce que vous avez un côté un peu anxieux?
Oui, alors anxieux, oui, mais pas non plus dans l'excès, parce que je pense qu'il y a quand même dans la projection dans l'avenir, il y a aussi l'avenir qu'on a envie de dessiner ou l'avenir comme on le voit. Quand je vois typiquement le Maroc, si je me projette dans l'évolution du consommateur marocain ou de la société marocaine, je suis extrêmement positif et c'est loin d'être une source d'anxiété.
Mais dans la vie privée,
dans la vie privée, encore une fois, ça dépend des sujets. Quand on est en train de planifier ou de se projeter sur des sujets liés à l'évolution de ses enfants, par exemple, c'est plutôt des perspectives qui sont positives. Maintenant, c'est vrai que des fois, ça nous joue des tours dans le sens où on est constamment en train de préparer un avenir qui n'est pas certain, au lieu d'être simplement en train de tirer le meilleur du moment présent.
Mmh. Et c'est vrai que c'est vrai, ouais.
Oui, c'est un effort du quotidien, en effet, de prendre cette distance. C'est-à-dire que dans le cadre de mon métier, je suis vraiment dans une poursuite vers l'avant, dans une projection, etc. Et dans ma vie quotidienne, dans ma vie privée, j'essaye de me discipliner pour rester quand même ancré dans le présent. Mmh. Et c'est juste, ouais.
Alors, par exemple, si vous avez un groupe de copains qui vous disent « Bon, demain, Hamza, on voyage. » Est-ce que Hamza est du genre à pouvoir ramasser ses affaires rapidement, prendre carrément un sac à dos, ou Hamza a besoin d'être prévenu à l'avance parce qu'on ne peut pas très vite le sortir de sa zone de confort et le perturber?
Alors, si on me dit « Hamza, demain, on part en voyage », ils n'ont même pas fini leur phrase que je serais déjà sur Google en train de voir la météo. Oui, mais justement, pour m'organiser, en fait.
Ouais.
Je vais voir la météo, je vais voir les hôtels disponibles, je vais voir les destinations, je vais voir les prix, je vais voir mon calendrier, etc. Pour être sûr que, dans ma spontanéité, je reste quand même un minimum organisé. C'est-à-dire, la perspective de partir en voyage est plaisante, mais je vais m'assurer que c'est bien organisé avant de prendre la route. Mais j'aime pas les surprises.
Ok. Alors, l'entretien, on le fait à distance. Vous êtes en France. Mm-hmm. Est-ce que vous vous considérez comme un émigré ou comme un expatrié?
Ah, c'est une excellente question. J'y ai jamais pensé. Alors, immigré ou expatrié? En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ni l'un ni l'autre. Ça fait 10 ans que j'ai quitté le Maroc, Donc en fait, c'est assez inhabituel parce que j'ai quitté le Maroc assez tardivement. J'avais déjà 33 ans. Donc je me considère pas immigré parce que la place qu'occupe le Maroc dans ma vie, dans mon identité, dans mon quotidien, etc., est quand même une place prépondérante. Pour moi, c'est comme si j'habitais au Maroc, mais dans un quartier très très loin du centre-ville, et ce quartier s'appelle Paris. Mais je reste extrêmement ancré dans le Maroc. Donc pour moi, je ne suis pas sorti du Maroc, j'ai l'occasion de revenir assez régulièrement, j'ai l'occasion, je collabore avec quelques marques et entités au Maroc, etc. Donc pour moi, en fait, Paris, c'est mon lieu de vie, donc c'est là où j'habite, mais ce n'est pas là où je vis. Voilà, ma vie, elle est un peu partout et beaucoup au Maroc.
Justement, ce grand retour de beaucoup de RME maintenant, oui. Ce grand retour au Maroc, au pays de nombreux RME, oui. Vous en pensez quoi ? À votre avis, qu'est-ce qui les pousse à revenir ? Ou à venir pour la première fois s'installer, en fait, revenir peut-être après leurs parents ?
Ouais, alors c'est une très bonne question. Alors de là où je suis, la question que je me pose, c'est pas qu'est-ce qui les pousse à venir ou à revenir, mais plutôt qu'est-ce qui les pousse à partir.
Partir, oui, absolument. On l'aborde différemment. Absolument, c'est une autre perspective.
Voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est que le Maroc est de plus en plus attrayant, mais en parallèle de ce gain en attractivité, il y a aussi une perte d'attractivité de là où ces expatriés sont. Typiquement, quand on voit la croissance au Maroc par rapport à la croissance en France, il n'y a pas photo. Quand on voit le confort de vie, en fait, à salaire égal, et quand je dis à salaire égal, en fait, pas à salaire égal, mais on suppose qu'au Maroc, on gagne 30-40% de moins que ce qu'on gagne en France, on aura quand même un meilleur cadre de vie, un meilleur confort, une meilleure stabilité. Et voilà, en fait, alors vous parliez tout à l'heure du facteur anxiogène. Je pense que, par exemple, le fait de vivre dans une ville comme Paris en 2023 est extrêmement anxiogène par rapport à vivre dans une ville comme Casablanca ou Rabat ou Tanger.
On est quand même en 2024 aujourd'hui.
En 2024, 4. Tout à fait. le mois de janvier, c'est le mois où on va encore se tromper.
Se sentir, ouais.
Et pour revenir vite fait sur cette idée du grand retour, donc en fait, il y a aussi une question d'identité. Il y a des choses qui se sont passées ces dernières années. Je mets bout à bout, même si c'est des éléments qui n'ont rien à voir, mais entre la manière dont on a géré la crise du Covid, la manière dont on a géré les terribles événements du tremblement de terre, la manière dont on a géré cette merveilleuse Coupe du Monde, etc., ont fait qu'en 2 ans, il y a beaucoup de belles valeurs marocaines qui ont été mises à l'épreuve. Voilà, et qui ont été. On a été à la hauteur des valeurs qu'on raconte. On a été à la hauteur de notre réputation de solidarité, de notre réputation d'hospitalité, de notre réputation de résilience, etc., etc. Et donc, il y a un sentiment de fierté. Pendant la Coupe du Monde, j'étais extrêmement fier de sortir dans la rue, me balader, et j'étais très fier qu'on reconnaisse en moi une personne marocaine. Et donc, je pense que c'est un peu la première étape, c'est-à-dire on est fier de notre identité, et après, on a envie de la vivre. Et je pense que ces personnes qui sont en train de revenir ou de venir au Maroc, ils ont envie de vivre leur identité de la manière la plus saine et jusqu'au bout et sans aucun jugement, et dans un pays qui au final est extrêmement tolérant. Le Maroc est une véritable terre d'accueil et on se sent, qu'on soit étranger au Maroc ou marocain au Maroc, on finit toujours par devenir marocain.
Alors, votre retour à vous, vous pensez qu'il est pour bientôt, justement ? Parce que quand vous en parlez, on se dit, à la limite, mais pourquoi il est parti ?
Oui, c'est une bonne question. On se la pose avec ma femme une fois par semaine.
Oui.
Généralement, c'est le dimanche soir, c'est la discussion du dimanche soir, c'est qu'est-ce qu'on fait là ? On devrait peut-être partir, etc. Non, mais sinon, après, bon, il y a toujours quelques... contraintes ou quelques opportunités. Notre fille a 4 ans, elle est en train de faire ses premières années en France. Moi, j'ai toujours pensé que le voyage, de manière générale, est extrêmement constructif. Et je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, Ce qui fait que je suis de plus en plus amoureux et attiré par le Maroc, c'est aussi le fait de l'avoir quitté. Ça aide. Et donc, j'aimerais bien que ma fille, par exemple, voit un peu le monde avant de voir le Maroc ou vice-versa. Mais en tout cas, j'aime bien cette idée de voyager ou même de sortir de sa zone de confort. Donc, en effet, on est moins confortable à Paris aujourd'hui qu'à Casablanca, par exemple. Mais cet inconfort fera que quand on sera de retour, on appréciera le confort qu'on aura.
Alors justement, quand on quitte son pays, quand on quitte le Maroc, c'est là où on le voit différemment ?
Je pense, on voit le contraste, on voit ce qu'on avait et qu'on avait arrêté de voir. Je vois sur les chaînes d'information ici les débats de société, les débats politiques, etc., etc. Et j'aime le fait que dans notre pays, on soit tous, solidaires et d'accord sur notre. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que tous les Marocains partagent. Aujourd'hui, dans certaines sociétés occidentales, il y a de moins en moins de choses que les gens partagent. Et donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on arrête de voir quand on est au Maroc, parce qu'on a tendance à voir ce qui nous différencie de notre voisin ou de notre maître à l'école ou de l'épicier, etc. Et on arrête de voir ce qui nous rapproche. Et quand on quitte le Maroc ou quand on quitte son pays, on se rend compte de ce qui nous rapprochait et qu'on avait arrêté de voir. Et donc oui, en effet, ça change la perception. Et puis après, bon, il y a des petits éléments du quotidien. Il y a une météo, nous on a eu un peu de neige.
Oui.
Mignon, mais sinon, ouais. Le reste du temps, il fait quand même pas mal froid. Et quand je regarde la météo au Maroc, je vous cache pas que c'est assez attirant.
On va dire que... Moi, marocaine du Maroc, pour moi, quand vous parlez de météo, c'est même pas secondaire, c'est plus que secondaire. Est-ce que quand on est au contraire dans une météo défavorable constamment, ça devient un élément, on valorise encore plus?
Alors, on valorise un peu encore plus et on développe un rapport à la nature et à la météo qui est assez spécial. Moi, quand je suis à Casablanca maintenant, que ce soit le mois de novembre ou le mois de janvier ou le mois de février, le matin, je vais à Ain Diab et je nage.
Okay.
Parce que je me dis, je n'ai pas tous les jours l'occasion d'avoir la mer en face de moi, donc je vais bien en profiter. Alors que quand j'habitais au Maroc, j'avais arrêté de voir que j'habitais dans une ville côtière. On est là à s'extasier dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Et pour ça, le Maroc a quand même quatre belles saisons, à une super richesse naturelle, qui fait que voilà, c'est assez unique. Et en effet, quand on est sur place, on arrête de voir ça encore une fois.
Alors, Hamza Chaoui, est-ce qu'il vous arrive d'être triste?
Oui, heureusement.
Vous en parlez facilement de vos états d'âme?
À ma psy, oui. À la radio, moins souvent.
Souvent. À votre femme, vous en parlez ou pas?
Bien sûr, bien
oui.
sûr.
Oui,
oui, oui.
Vous avez toujours facilement partagé ou c'est la psychothérapie qui vous a aidé à partager aussi à votre moitié?
Alors, je ramène ça à mon métier. Je travaille dans le planning stratégique, c'est dans l'univers de la communication et j'ai de tout temps perçu la communication comme étant la solution à la plupart des problèmes relationnels. Et donc, en cas de doute ou dans n'importe quelle situation, j'essaye de mettre vraiment la communication au centre de ce qui est en train d'être fait. Donc, ça s'applique également à mes états d'âme, c'est-à-dire quand je suis dans une impasse cérébrale ou que je suis mal dans ma peau, etc., sans pouvoir voir la solution qui me sortira de cet état, je sais que le simple fait d'en parler est un début de solution. Donc, c'est un réflexe que j'ai toujours eu et on a construit notre foyer autour de ça. Donc, on communique beaucoup. Et ça aide beaucoup et surtout, ça nous permet d'être un peu au diapason et non pas être dans deux univers parallèles où l'un se sent bien et n'est pas au courant que l'autre
ne va pas bien.
ne va pas bien.
Ouais, ouais.
Donc voilà.
Alors justement, ça fonctionne comment, chérie? Il faut qu'on parle, il faut qu'on communique, parce qu'apparemment, quand on dit ça, c'est que ça va mal, hein.
Oui, oui, oui. Bah, généralement, on essaie de le faire avant que ça n'arrive à cet état-là. Donc, ouais. On essaie d'être un peu attentif l'un à l'autre, essayer de déceler des signaux faibles. Ah tiens, ça fait 2 jours que t'es pas allé au sport. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, des petits signaux faibles du quotidien qui font qu'on démarrera une conversation. Mais voilà, mais c'est aussi une dynamique du quotidien où il suffit juste d'échanger, on n'a pas de surprise. C'est-à-dire que si on parle tous les jours, par exemple, de nos travails respectifs, le jour où ça commence à mal se passer, en fait, on le sait déjà parce qu'on a déjà parlé quotidiennement du travail.
Exact.
Si un couple ne discute jamais du travail et que ça se passe mal l'un pour l'autre, ils ne parleront du travail que quand ça ira mal et ça viendra toujours comme une surprise.
Absolument. Justement, quand on est loin de sa famille, est-ce qu'on est davantage attentif à ces signaux faibles de l'autre?
Alors, j'aimerais dire oui, mais malheureusement, c'est compliqué parce que... Pour être complètement honnête, on passe à côté de ces signaux faibles parce que justement, on est moins dans le quotidien. Un appel tous les 2-3 jours ou un appel hebdomadaire ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble. Surtout que culturellement, on ne veut pas trop inquiéter l'autre, on veut paraître sous son meilleur jour. Donc, à la question « comment ça va ?», généralement, la réponse est « ça va bien ».
Ça va bien, oui.
À moins que ce ne soit... vraiment une situation compliquée ou difficile. Donc, non, la distance, alors pour ça, n'aide pas trop. Et voilà, il faut redoubler d'efforts pour rester attentif. Je ne suis pas sûr d'y arriver complètement, pour être honnête, mais on essaye.
Et avec sa propre moitié, est-ce qu'on est davantage, parce qu'on est loin, on est seul, on est en quelque sorte seul dans un autre pays à deux, est-ce que ça rapproche?
Ah, je pense que ça rapproche.
Est-ce qu'on vit
carrément
son couple différemment?
Ah, on le vit intensément parce que c'est toi et moi contre le reste du monde. on est là, on va pas avoir les parents. Bon, si on a de la chance, on peut avoir un frère ou une sœur. Mais à part ça, c'est vraiment nous contre le reste du monde, sachant qu'on est dans une culture différente, on est dans une culture qui n'est pas toujours facile ou bien aligné avec notre set de valeurs et ce qui nous ancre justement dans nos valeurs à nous, etc., c'est qu'on a au sein de notre foyer une personne qui partage ces mêmes valeurs ou cette même vision de la vie. Donc oui, je pense que ça rapproche, ça solidifie et puis ça nous permet de gagner en profondeur parce que voilà, on est obligé de compter l'un pour l'autre. Donc, on est obligé d'être dans une confiance totale. Et si on a des moments de faiblesse, bah, c'est que vers sa moitié qu'on va se tourner, généralement. Et donc, voilà, donc c'est plutôt positif pour un couple.
Ça devient pleinement le centre du monde, l'autre personne.
Absolument.
Centre de son monde à ce moment-là.
Tout à fait,
à fait. Ouais. Ça crée une sorte de relation fusionnelle d'une autre manière. Mais est-ce que cette relation fusionnelle, elle est viable lorsqu'on rentre au pays?
Je vous dirai dans quelques années. J'ai pas encore vécu.
Ouais, mais quand vous rentrez en vacances, par exemple, j'imagine que les choses se passent différemment. On a un avant-goût de ce qui va se passer après.
Alors, je sais pas parce que quand on arrive, quand on est là en vacances, on est un peu choyé, on n'est pas chez nous, on a beaucoup d'attention, beaucoup de personnes veulent nous voir, etc., etc. On n'est pas dans un rythme quotidien où on va voir sa famille à petite dose, où on va construire des relations sociales sur un temps plus long, etc. J'arrive pas à me baser sur les vacances pour me projeter dans un quotidien plus durable. Après, à chaque fois, de toute façon, parce qu'après le Maroc, on a vécu quelques années à Dubaï avant de venir en France. Donc en fait, c'est le deuxième pays qu'on fait en dehors du Maroc. Et de toute façon, à chaque fois, c'est le même schéma. Et au retour au Maroc, ça va de toute façon être le même schéma. C'est-à-dire qu'on arrive et il y a un temps d'adaptation, il y a de nouvelles routines à créer, de nouveaux rituels à créer, une nouvelle dynamique qui s'installe, etc., etc. Et puis, au fil du temps, on corrige, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, jusqu'à ce qu'on trouve notre équilibre. Mais à chaque fois qu'on change d'environnement, de toute façon, c'est un peu une remise en question de nos modalités de fonctionnement.
Le fil conducteur à tout cela, c'est bien sûr la communication. Ce n'est pas pour rien que c'est votre métier aussi.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est un peu, quand je parle à des personnes en début de relation ou des choses comme ça, moi c'est en fait, ce qui est un signal faible que les choses vont mal, c'est quand on peut voir qu'une partie ou l'autre du couple préfère se confier à un ami ou à un collègue plutôt qu'à son mari ou plutôt qu'à sa femme. Pour moi, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé dans l'autre notre point d'arrivée, notre destination finale en termes de relation.
Peut-être pour finir, qu'est-ce qui a fait votre éducation à vous du couple?
C'est une très bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça. Alors, qu'est-ce qui a fait c'est-à-dire ce qui m'a inspiré ou dicté
oui,
un peu là.
Voilà, ce qui fait que vous raisonnez ainsi.
Bah, je pense déjà que là, au moins 50% de ça est dû à ma femme. Parce qu'il faut quand même être deux, donc je lui rends crédit. Et après, je saurais pas dire parce que mes parents m'ont inspiré sur un certain nombre de choses, mais plus en termes de valeurs universelles plutôt que de modèles de couple. Après, nous, notre modèle de couple, on l'a un peu construit ensemble parce que déjà, ça fait un bon petit moment qu'on est ensemble et on est ensemble depuis qu'on est relativement jeune. Donc en fait, c'est un peu... voilà, c'est peut-être juste on a essayé des choses, on a tenté des choses et on a, encore une fois, on a construit notre propre modèle. J'ai pas un modèle qui m'a particulièrement inspiré ou auquel je pense là en ce moment. Après, j'ai beaucoup, par contre, de mauvais modèles. C'est-à-dire, c'était plus ça, c'est un couple que je n'aimerais pas être ou bien ça, c'est la situation dans laquelle j'aimerais pas me retrouver. Et donc, il faudrait que je fasse comme ci ou que je ne fasse pas comme ça ou qu'on fasse comme ci et qu'on ne fasse pas comme ça. Donc, c'est plus pour éviter de reproduire des schémas qui nous ont déplu dans le passé plutôt qu'un modèle à imiter ou à reproduire.
Eh bien, Hamza Chaoui, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.